CIBL, au cœur de la musique.
C'est intermittent jusqu'à Wellington. Vers la rive sud, congestion depuis Turcot, parce qu'on a eu un accident tout à l'heure sur la 132.
Bon, mais c'est clair, tu vas être en retard.
Ah, cool, j'ai de la gym.
Parce que la 132 demeure encore occupée.
Il est 9h.
CIBL. 101, 102.
Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Les Aurores Montréal sur CIBL. Nous sommes le mardi 12 mars et ici Charline Carreau, votre animatrice pour la meilleure matinale de Montréal. Et aujourd'hui, on reçoit le bibliothécaire Félix-Antoine Aubin pour parler de l'histoire du jazz à Montréal, suivi de l'organisme Bâtiment 7. Et on finira avec notre chroniqueuse Louise Anneau pour une revue de l'actualité culturelle de la ville. Alors que vous soyez au travail, sur la route ou bien tranquillement en train de vous réveiller, bienvenue sur les ondes de CIBL. Et dans l'actualité, la ville de Montréal a décidé de ne pas charger la neige regroupée au bord des trottoirs. Depuis samedi, une dizaine de centimètres sont tombés, mais les services de déneigement comptent sur la météo pour faire disparaître la neige. Les prévisions maximales pour la semaine sont en effet indiquées à 5 à 10 degrés. Et ensuite, une suggestion de sortie pour ce soir avec le concert de Sabrina Aldé. La chanteuse de l'ancien groupe montréalais Groenland se produit dans un projet solo fait de pop indie, un répertoire percussif, mélodique et électro. En plus de sa voix et de son clavier, elle sera accompagnée d'un guitariste, d'un bassiste et d'un batteur. C'est à retrouver gratuitement ce soir à 20h à la Maison de la Culture Notre-Dame-de-Grâce. Et puis nous, de notre côté, on continue sur CIBL avec la chronique et l'entrevue du bibliothécaire Félix-Antoine Aubin. Je reçois ce matin Félix-Antoine Aubin, bibliothécaire à Bibliothèque et Archives nationales du Québec, ou BANQ. Bonjour Félix-Antoine.
Bonjour.
Je te reçois donc dans le cadre de l'article que tu as écrit pour le site de BANQ, dans lequel tu reviens sur l'histoire du jazz à travers le quartier La Petite Bourgogne. Est-ce que tu peux nous en dire plus?
Certainement. D'abord, merci de m'inviter.
Avec grand plaisir.
Ma recherche s'est penchée tout spécifiquement sur la petite Bourgogne du 19e et 20e siècle. Mm-hmm. Pendant cette période, le quartier se métamorphose profondément. Il passe d'un quartier industriel où le paysage est fait d'entrepôts et d'usines, mm-hmm. pour devenir un peu plus tard une plaque tournante du jazz avec ses nombreux clubs et cabarets. Cette évolution que j'ai tenté d'expliquer dans l'article que j'ai écrit, et c'est ce que je vais tenter du mieux que je peux de résumer aujourd'hui. Il est important de dire que cette histoire ne peut être racontée sans souligner la part centrale de la communauté noire à la petite Bourgogne. Cette histoire, c'est la leur.
Alors, pour commencer, est-ce que tu pourrais tout d'abord nous situer le quartier de la petite Bourgogne à Montréal?
Oui, certainement. La petite Bourgogne est située dans le sud-ouest de l'île. Le quartier est actuellement délimité par la rue Atwater, Saint-Antoine, Guy et le canal de la Chine au sud. Évidemment, les frontières ont légèrement changé depuis le 19e siècle. De nouvelles rues ont été construites, d'autres ont changé de nom, même le canal s'est élargi. Mais la superficie est sensiblement la même. C'est le canal de la Chine, donc, qui entraîne d'abord l'importante industrialisation du quartier. Plusieurs grandes entreprises et de nombreux travailleurs à la recherche d'emploi s'installent dans la petite Bourgogne. Cet essor s'intensifie avec l'expansion du chemin de fer. Le réseau explose vraiment là, à partir du 19e siècle, au moment où des joueurs importants s'établissent dans la ville, comme la compagnie du Grand Tronc, qui fait construire en 1848 la gare Bonaventure, située sur la rue Saint-Jacques. Ce n'est pas la même gare Bonaventure qu'on connaît aujourd'hui. Là. Elle est disparue par les flammes en 1948, mais on peut trouver de très belles cartes postales sur BNQ numérique. Hein. Je vous invite à aller voir ça. Un peu plus tard, en 1889, il y a aussi la gare Windsor qui est construite. Ça, c'est la même qu'on connaît aujourd'hui. Donc, c'est vraiment à ce moment-là que Montréal devient un pôle économique important en Amérique.
Tu parlais de la communauté noire qui a vraiment fait l'histoire du quartier de la Petite Bourgogne. Est-ce que c'est à ce moment-là qu'une communauté afro-descendante se développe dans le quartier?
Oui, tranquillement. La connexion de Montréal au reste du Canada et aux États-Unis par sa voie maritime et ferroviaire permet la venue d'un grand nombre d'immigrants. Donc, en 1889, en même année que la gare Windsor, la Pullman Palace Company s'installe à Montréal. Ça, c'est une compagnie de train qui offre des trains plus confortables pour des voyages un peu plus longs. Mm-hmm. Donc, ils ont besoin d'engager des porteurs pour travailler dans les trains. Dans ce cas, ils engagent principalement des personnes noires. Donc, les auteurs, les autrices que j'ai lues pour ce texte parlent vraiment de ségrégation, même si officiellement, c'était pas légal au Canada à cette époque-là. Donc, ces opportunités d'emploi, conjuguées à l'abolition de l'esclavage aux États-Unis quelques années plus tôt, en 1865, favorisent l'établissement d'une communauté afro-descendante à Montréal, parce que, dans le fond, ces personnes s'installent à proximité de leur potentiel emploi, près des gares, donc dans les quartiers de la Petite-Bourgogne.
Et alors, comment on constate cette apparition de la communauté dans le quartier de la Petite-Bourgogne?
D'abord, c'est important de dire qu'il y a des personnes noires qui sont sur le territoire du Québec depuis la Nouvelle-France, hein, parce que oui, nous aussi, on a eu l'esclavage. Mais la création d'organismes communautaires au début du 20e siècle apparaît vraiment comme le signe de l'établissement d'une communauté. Les mauvaises conditions de travail, les maigres salaires maintiennent les travailleurs dans des situations de précarité sociale et économique, on s'en doute. Donc, dans ce contexte, la population se mobilise en créant de nombreuses associations communautaires. Le premier organisme, justement, pour le droit des personnes noires au Québec est le Colored Women's Club, fondé en 1902.
Est-ce qu'il y a une raison particulière qui explique que le premier groupe soit en fait un groupe réservé aux femmes?
Que le premier organisme créé vise principalement les femmes, ça s'explique par la nature du travail des hommes. En effet, c'est plus difficile pour les hommes de s'impliquer, étant donné qu'ils sont souvent à l'extérieur de la ville, dans les trains allant à Toronto ou à New York ou ailleurs. Donc, les femmes sont largement représentées dans les différents organismes du quartier et jouent un rôle central dans l'établissement de cette fameuse communauté.
Est-ce qu'il y a un organisme en particulier qui a exercé une grande influence dans le quartier?
Oui, une des plus importantes est sans aucun doute l'église Union United, créée en 1907 et toujours en fonction aujourd'hui. Hein, l'église se trouve tout près de la station Lionel-Groulx. Vous arrivez peut-être de passer à côté sans trop s'y attarder, mais c'est un bâtiment éminemment important. C'est la plus vieille église constituée par et pour les membres de la communauté noire au Canada. L'importance de cette église est souvent attribuée au travail du révérend Charles Est, en poste de 1923 à 1968, donc 45 ans, félicitations. Il est considéré comme un personnage incontournable du quartier.
Et pourquoi tu parles d'un personnage incontournable?
Le révérend Est permet d'accroître vraiment le soutien de l'église à la collectivité. Il participe à l'établissement de nombreux clubs et chorales en collaboration avec des organismes affiliés à la congrégation. Donc, l'église devient vraiment le centre communautaire du quartier, une sorte de point central vers lequel toute la communauté peut se tourner, peu importe le besoin. Et un autre des groupes importants, c'est qui est associé à l'Union United, c'est l'Universal Mohan Improvement Association. Donc, on va l'appeler l'UNIA, je pense que ça va être plus simple. Cette entité se présente vraiment comme un organisme visant à accroître la capacité des individus en créant des espaces de soutien et de fraternité. Là, je paraphrase un peu leur description. L'organisme, avec l'aide du révérend Est, évidemment, met en place de nombreux clubs en tout genre pour discuter et apprendre et crée des groupes de musique et plus précisément une chorale, un orchestre et un boys band qui joue essentiellement du jazz. Je vais revenir à ce boys band-là. Ce qui ressort de mes lectures, c'est que ces lieux de création et d'apprentissage ont contribué à cultiver de nouvelles compétences pouvant favoriser la mobilité sociale des membres de la communauté. Donc, les auteurs et autrices que j'ai lus soulignent régulièrement la part importante du groupe pour le bien-être de la communauté. Et l'un des exemples les plus probants de l'effet positif de ces activités est sans aucun doute le cas de la famille Peterson, et tout particulièrement un certain Oscar Peterson.
On en vient à quelqu'un qu'on connaît bien. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce fameux Oscar Peterson?
Certainement. Jazzman de renom, né en 1925 d'un père porteur pour la compagnie ferroviaire du Canadien Pacifique et d'une mère domestique dans la famille aisée de Montréal. Oscar Peterson est le quatrième d'une fratrie de cinq. Tous les enfants Peterson reçoivent une formation au piano et à la trompette. Fait intéressant, si Oscar se limite au piano, c'est qu'il contracte la tuberculose à l'âge de 7 ans. Et donc, son père décide de prioriser cet instrument pour ménager ses poumons. Alors, on remercie son père pour cette belle initiative. La famille Peterson est affiliée à la congrégation de l'église Union United et participe activement à la vie communautaire. Tout particulièrement Daisy, la grande sœur d'Oscar, qui s'implique longtemps comme professeure de musique pour l'UNIA. Elle enseigne le piano à un certain Oliver Jones, un autre futur pianiste de renom, originaire, encore une fois, de la Petite Bourgogne. Donc, trois des frères Peterson, dont Oscar, sont membres du boys band mis en place par l'UNIA que j'ai mentionné plus tôt. Donc, l'icône du jazz offre donc ses premières prestations dans le cadre des activités de l'église. Chanceux.
Quel est le point de rupture? À quel moment il va vraiment percer?
En fait, il y aura deux événements marquants qui vont lui permettre d'avoir la notoriété qu'il aura. Premier événement, en 1939, à 14 ans, il remporte une compétition nationale de musique. Et c'est à ce moment que son nom apparaît régulièrement dans les journaux de l'époque. Parce qu'après sa victoire, on lui propose de jouer tous les jours pendant une semaine à la radio de CKAC de Montréal. Donc, c'est pas mal. Et ça devient vraiment une occasion pour lui de devenir un habitué des clubs de jazz de Montréal, comme l'Alberta Lounge qui se trouvait tout près de la gare Windsor. Mm-hmm. Donc le second événement a lieu 10 ans plus tard, en 1949. Étant régulièrement présent dans les clubs, un producteur américain le découvre et lui offre de se produire à l'événement Jazz at Carnegie Hall et, à New York. Et ça, ben, vous irez googler ça, là, parce que c'est du sérieux. Hein. À ce moment-là, c'est là que sa notoriété dépasse hein, pour de bon le territoire québécois.
On en vient à une question très importante, presque existentielle. Pourquoi le jazz est si important à Montréal, alors?
Oui, ça, c'est la partie fascinante. Que des musiciens de renom comme Oscar Peterson ou Oliver Jones émergent à Montréal, à cette époque, c'est pas un hasard. Mm-hmm. Toute la ville, et tout particulièrement la Petite-Bourgogne, est, depuis le début des années 20, un centre névralgique de la vie nocturne nord-américaine. Hein. Donc, c'est un lieu idéal pour l'essor du jazz. Cette effervescence s'explique par le fait que la production et la vente d'alcool sont légales à Montréal, contrairement aux États-Unis ou dans le reste du Canada, où elles sont prohibées, généralement. Montréal profite donc de l'affluence de touristes à la recherche de bon temps, et il y en a quelques-uns. Hein. Mais la prohibition, ce n'est pas le seul facteur qui influence la vitalité de Montréal. Entre 1920 et 1930, le quartier de Harlem, à New York, vit une période de renaissance culturelle. Ça aussi, il faut aller voir sur Wikipédia, là, c'est intéressant. Pendant cette période, un grand nombre d'artistes et d'intellectuels noirs s'y installent. Montréal profite donc de cette effervescence grâce à sa fameuse connexion ferroviaire. Hein, tout revient au chemin de fer. Mm-hmm. La vitalité du quartier new-yorkais, conjuguée à l'absence de prohibition au Québec, forge la réputation festive et bouillonnante de Montréal. Donc, c'est ça qui est intéressant, parce qu'au début du 19e siècle, les chemins de fer attiraient des travailleurs. Mais soudainement, ces gares ont un tout autre impact sur la ville. Donc, le jazz venant d'Harlem atterrit dans les clubs montréalais ayant pignon sur rue à proximité des gares. On retrouve par exemple le Rocket Paradise, le Café Saint-Michel, l'Utopia Club ou encore le Terminal Club. Et ce lien entre Harlem et Montréal s'affiche même dans les publicités de ces clubs. On présente souvent la Petite Bourgogne comme le Harlem du Nord ou le Harlem de Montréal. Mm-hmm. Donc, on peut retrouver ces publicités-là, encore une fois, dans BNQ numérique. Hein, tout ça, c'est numérisé, là, c'est facile. Donc, mot de la fin. Maintenant, le quartier a bien changé. De grands travaux de revitalisation urbaine ont métamorphosé le quartier dans la partie des années 1960-70, sous le maire Drapeau. Donc, les clubs de jazz, évidemment, ont tranquillement fermé. Mais heureusement, il semble y avoir un certain désir de souligner la richesse du quartier, en érigeant, par exemple, des murales aux quatre coins du quartier. Donc, j'espère que cette histoire va être plus connue, parce que c'est très intéressant, mais on en parle peu.
En effet. Et donc, merci beaucoup, Félix-Antoine, plaisir. D'être venu nous parler de ta recherche et de ce sujet très intéressant. J'en profite que tu sois là pour te poser quelques questions, parce que tu es bibliothécaire, on ne l'oublie pas. Est-ce que tu pourrais nous expliquer en quoi consiste ton travail?
En fait, il y a beaucoup de bibliothécaires,
d'accord.
Beaucoup de types de bibliothécaires, beaucoup de milieux de bibliothécaires. Donc là, ça serait compliqué un peu peut-être d'expliquer chacune des particularités. Mais pour moi, à BNQ, je suis bibliothécaire médiateur. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que je me trouve entre les documents et les usagers. Donc, c'est moi qui tente du mieux que je peux de diffuser et de rendre accessibles ces documents que nous, on préserve. Peut-être que je devrais... ouais, on va faire ça. On y va. Je vais expliquer peu qu'est-ce que c'est BNQ, parce que c'est une institution qui est incroyable, mais un peu difficile parfois à saisir complètement. Donc, BNQ, c'est trois piliers. Il y a les archives nationales, il y a la grande bibliothèque qu'on connaît, la belle bâtisse au coin, et Bibliothèque nationale. Moi, c'est cette partie-là que je travaille à la Bibliothèque nationale. Donc, nous, notre rôle, c'est de préserver tout ce qui est publié au Québec depuis, en théorie, le début de l'existence.
Tout simplement.
Tout simplement, une petite mission. Donc, dans le fond, on a ces documents-là grâce à la loi qui a été votée en 1968 pour le dépôt légal. Tous les éditeurs doivent nous donner deux documents de tout ce qui est publié. Donc, de cette manière-là, on en garde un qui reste dans des réserves dissimulées à la vue de tous, et l'autre qui est fait pour la diffusion. Et c'est là que je rentre en jeu, c'est là que j'espère rendre accessibles ces documents-là. Évidemment, dans mes tâches, qu'est-ce que je fais, c'est beaucoup de références. Donc, j'aide les usagers, les gens viennent me voir, ils ont des questions, parfois des questions toutes simples, mais que ça me fait plaisir d'aider. Mm-hmm. Des fois, c'est des questions existentielles, parce qu'il y a beaucoup de questions de généalogie. Donc, des fois, c'est émotif. Des fois, c'est vraiment des questions des étudiants, par exemple, qui viennent avoir des réponses à leurs questions. Bon, ça, c'est une bonne partie de mon temps. J'adore faire ça, hein, parce que c'est tellement satisfaisant de voir... De trouver la réponse pour les gens.
Oui, c'est ça, t'aimes ce lien avec le public.
Exactement. Ouais. En fait, je pense que c'est quelque chose que beaucoup de bibliothécaires partagent, mm-hmm. parce que dans le fond, il y a comme... on dirait que quand on est bibliothécaire, on a un peu l'envie du « care », entre mm-hmm. guillemets, donc prendre soin. Donc, il y a quelque chose d'aider les gens qui mm-hmm. est très, très important chez nous.
Mm-hmm. On en revient à ton article, justement, on a commencé à le comprendre, mais quel est le rapport entre ton mm-hmm. mandat de bibliothécaire et la rédaction de cet article? Tu en as écrit deux autres auparavant aussi. Oui. Quel est le lien?
C'est ça, dans le fond, on met en... Il faut diffuser. Il faut que les gens ouais. prennent conscience que toute la richesse des collections qui nous appartient collectivement. Donc, écrire un article comme ça, c'est un peu un exemple de qu'est-ce qu'on peut faire avec les documents qu'on a.
Oui, c'est ça, parce que comme tu voulais le mentionner, c'est quelque chose que n'importe qui, entre guillemets, aurait pu faire. Tu as pris les ressources de BNQ, c'est ça? Tu t'es appuyé sur des ressources...
La majorité des documents mmh. viennent effectivement de BNQ. Sont même généralement numérisés. Donc, mm-hmm. il y a les cartes postales, les journaux, mm-hmm. Même des plans de la ville que j'ai utilisés pour savoir justement où situait réellement la petite Bourgogne mm-hmm. à travers le temps. Donc, tout ça, c'est en ligne, c'est accessible gratuitement.
Très bien. Et comment, justement, t'en es arrivé à traiter ce sujet très, très important, très intéressant de l'histoire du quartier de la petite Bourgogne? Est-ce que c'était une demande de BNQ mm-hmm. ou est-ce que c'était une volonté personnelle?
Un peu des deux, parce ouais. qu'il y a beaucoup de liberté quand même qui est à BNQ. Donc, il espérait qu'un texte soit écrit pour le mois de l'histoire des Noirs mm-hmm. En février. Donc, moi, je me suis porté volontaire. Au début, je voulais écrire un article qui avait un accent plus sur une personne, une personnalité un peu oubliée, mais importante mm-hmm. de la communauté noire de Montréal. Après, je trouvais ça plus intéressant peut-être de parler de la communauté en tant que tel, mm-hmm. et non de seulement l'exploit d'une personne. Je trouve que c'est plus intéressant parfois de dépasser le fait individuel puis concevoir la collectivité. Mm-hmm. Donc, c'est plus intéressant une collectivité qui crée des gens exceptionnels que seulement les gens exceptionnels.
En effet. Et donc, j'invite tout le monde à aller voir, bien sûr, ton article qui est intitulé « Petite Bourgogne, histoire du quartier sur fond de jazz ». C'est disponible sur le site de BNQ. Avant de se quitter, j'en profite que tu sois là pour te demander si tu as une ou deux suggestions littéraires en tout genre qu'on peut retrouver à BNQ.
Absolument. Toujours disponible pour des suggestions littéraires. premier livre incroyable. Je voulais sortir un peu de qu'est-ce que j'ai fait pour l'article. On est plus dans la fiction. Là. Premier livre, Morel, de Maxime Raymond Bock, publié en 2021 chez Chavaldou. Incroyable livre. On suit, en fond, un travailleur qui est là sur les chantiers importants de l'après-guerre à Montréal, donc le pont Jean-Cartier et aussi le métro de Montréal. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment un bijou. La recherche qui a été faite pour écrire ce livre-là, c'est assez incroyable. Juste pour ça, ça mérite le détour, puis après, ben, le plaisir du texte. Ça, c'est ma première suggestion. Ensuite, je dirais Burgundy de Mélanie Michaud, qui est publié en 2020 aux éditions de La Mèche. Donc, évidemment, un peu thématique, là, Burgundy fait référence à la petite Bourgogne. Mm-hmm. C'est l'histoire d'une jeune fille qui côtoie la pauvreté et la violence du quartier dans les années 80. Malgré tout, c'est un livre qui est très cocasse, très humoristique. Donc, je vous le conseille. Mm-hmm. Un petit dernier.
Bien sûr.
De préférence, La nuit, de Stanley Péan. Publié en 2020 chez Boréal. Donc, si on s'intéresse au jazz, il faut lire Stanley Péan. Lui, c'est le dernier. Il y a eu une très belle réception. Donc, je vous le conseille.
Très bien. Merci beaucoup pour tous ces conseils, toutes ces suggestions. On retrouve toute ton information sur BNQ, sur le site Internet. Ton article « Petite Bourgogne, histoire du quartier sur fond de jazz ». Merci beaucoup, Félix.
Merci à toi.
Et on se quitte bien sûr avec Oscar Peterson qui interprète « Summertime ». Merci beaucoup et bonne journée.
Merci.
Vous cherchez une activité ludique et rassembleuse? Inscrivez le Bingo Radio de CIBL à votre agenda. Chaque semaine, courez la chance de gagner 3 500 $ en prix. Invitez vos amis et jouez avec nous tous les dimanches dès 13h. Pour participer, procurez-vous les cartes de jeu du Bingo de CIBL dans un point de vente près de chez vous. Pour trouver des lieux, visitez notre site web au cibl1015.com sous l'onglet Bingo Radio de CIBL. À dimanche prochain et bonne chance!
Il y a une maudite!
Tu viens-tu te foncer dans le porte-patio, Gaétan?
Ben non!
Voyons, je t'ai vu.
C'est mon émission, vous commencez.
Voyons donc, Gaétan, c'est un annonce, c'est le mercredi...
Les Trois Moustiquaires, votre fenêtre embrouillée sur l'actualité, mercredi 17h à CIBL.
Les générations se parlent, s'obstinent, se surprennent à l'émission Trait d'Union. Des humoristes, des réguliers, des invités, des amis, encore des amis se joignent et sont annoncés à chaque mercredi sur nos réseaux. On parle de tout, tous les vendredis à l'émission Trait d'Union à 14h sur les ondes de CIBL 101,5.
CIBL.
Je reçois à présent Caroline Mona Landriot, responsable communication à l'OBNL 7 à nous. Bonjour, Caroline.
Bonjour.
Vous représentez donc l'OBNL 7 à nous qui développe le projet du bâtiment 7 situé à la Pointe Saint-Charles. Si on en revient un peu aux origines, est-ce que vous pourriez nous expliquer l'histoire de ce fameux bâtiment 7?
Oui, je vais résumer l'histoire. Ça a commencé en fait au début des années 2000 quand la firme Alstom, qui occupait le bâtiment à l'époque, a décidé de déménager. Donc, le lieu était déserté depuis quelques années. Puis, il y a un géant de l'immobilier qui est le groupe MAC qui a voulu, qui a racheté en fait l'entièreté des terrains du CN dans Pointe-Saint-Charles, incluant ce bâtiment-là de 90 000 pieds carrés. Donc, c'est quand même énorme. Puis, il voulait le détruire, le transformer probablement en condo ou en un autre projet qui ressemblait pas, qui reflétait pas les besoins du quartier, en fait. Donc, les gens de la Pointe ont décidé de se mettre ensemble, les groupes communautaires, les citoyens, citoyennes, puis même quelques anarchistes libertaires et tout ça, qui se sont mis ensemble pour le sauver, puis le redonner à la communauté, puis y développer des projets qui répondent aux besoins des gens de Pointe-Saint-Charles, en fait. Donc, la lutte a duré plus d'une décennie pour avoir les clés, finalement, en 2017. Le bâtiment a ouvert en 2018, donc on fête notre 6e année cette année. Puis depuis l'ouverture, on a développé seulement que 30 % de la superficie du bâtiment, si on veut. Fait que l'histoire n'est pas terminée, en fait.
Et aujourd'hui, le bâtiment, c'est quoi?
En fait, c'est des services de proximité. Donc, premièrement, on a une épicerie autogérée. Donc, on peut devenir membre de l'épicerie puis avoir un rabais en échange de quelques heures de travail par mois. On a une coopérative brassicole, donc qui est un bar, une microbrasserie, un café. On a également une arcade qui a été créée par et pour les jeunes de Pointe-Saint-Charles qui s'appelle Press Start, appuyer sur démarrer. Puis sinon, on a l'École d'art de Pointe-Saint-Charles aussi qui a décidé de déménager ses locaux au bâtiment 7. Donc, il y a des cours de peinture, de dessin, de toutes sortes de choses artistiques. Puis on a aussi les ateliers collaboratifs. Donc, ça, c'est 7 ateliers communs. En fait, c'est nos communs. Ça appartient aux 7 à nous. Donc, ce n'est pas des individus qui sont responsables du matériel qui se trouve. C'est vraiment le 7 à nous, le bâtiment 7. Donc, à l'intérieur des ateliers collaboratifs, on retrouve un garage mécanique, un atelier vélo, un atelier bois, un atelier céramique, impression numérique, chambre noire et studio photo.
Vous avez tout dit.
Ouais.
Le bâtiment 7, donc, on commence à le comprendre, c'est un lieu autogéré par la communauté. Tous les citoyens et les organismes communautaires sont invités à l'investir, à l'utiliser. On ne peut s'empêcher de penser à la crise du logement et à la gentrification.
Ouais.
Dans ce contexte actuel, qu'est-ce que représente un tel lieu autogéré par la communauté?
Moi, comment je le vois, puis je le vis moi-même, en fait, c'est que c'est un lieu qui se veut comme un peu notre garage commun, là, si je peux dire. C'est comme un lieu où on peut investir ce qu'on a besoin, ce que les gens de Pointe-Saint-Charles et au-delà ont besoin, puis qu'on ne peut pas tenir dans nos appartements, dans nos petites maisons, justement, qui, tu sais, comme nous... Moi, j'habitais personnellement à Pointe-Saint-Charles. On était 8 dans un grand logement. Je me suis faite évincer. Je suis rendue au fin fond de Verdun dans un petit appartement, puis je ne peux pas avoir tous les outils, le matériel que je veux. Fait que je peux, par exemple, devenir membre des ateliers du B7. Puis là, j'ai accès à toute une panoplie d'outils que je peux pas avoir à la maison. Fait que c'est vraiment ça l'objectif, c'est que les gens puissent avoir accès à ces outils-là, puis surtout apprendre à réparer soi-même, à construire soi-même, à créer soi-même, au lieu de tout le temps dépendre de quelque chose d'externe qui va rajouter des coûts par-dessus le loyer qui est déjà trop cher, par exemple. T'sais.
Votre mode de gestion, il est horizontal et inclusif. J'imagine que ça marche, puisque le B7 a du succès.
Ben, on a des crottes à manger, ça, c'est certain. En fait, on est en grande restructuration de notre méthode d'autogestion en ce moment, parce que c'est ça, on l'a testé pendant 5-6 ans, puis on a réalisé que... Ben, disons qu'il y a quand même une grande partie des membres porteurs du projet qui sont là depuis le début, qui ont un background, une éducation, mettons, plus élevée, qui ont fait l'université, etc. Fait qu'ils ont, ils ont comme un bagage un peu plus cossu, puis qui peut parfois paraître opaque ou difficile à comprendre pour... parce qu'on veut s'adresser à tout le monde, pas juste justement aux gens qui ont un bac ou une maîtrise. Fait que là, on est en restructuration pour essayer de clarifier puis de simplifier notre structure pour que, par exemple, si une personne du quartier a envie de s'impliquer, mais qui n'a pas nécessairement envie de prendre toutes les décisions puis de participer aux assemblées puis tout ça, bien, elle ne sera pas obligée de le faire. Au final, on va comme reconnaître qu'il y a d'autres façons d'investir le bâtiment 7, pas juste... en étant une personne qui exerce son droit de vote, par exemple.
Est-ce que vous savez s'il y a d'autres projets d'autogestion comme ça qui existent ailleurs au Québec?
Ben, de ce que nous, on connaît, il n'y en a pas d'aussi, on va dire, holistique, là, qui regroupe plusieurs choses. Mm-hmm. L'objectif du bâtiment 7, c'est un peu de devenir un bateau en autarcie, là, comme presque. On a des jardins aussi à l'extérieur. Donc, l'objectif, ce serait qu'on réussisse à ce qu'on y retrouve un peu de tout, puis qu'on n'ait plus nécessairement besoin de se fier à des grandes corporations externes pour comme, soutenir nos modes de vie. Moi, un projet que je connais qui se ressemble le plus, c'est l'Espace Maker dans Hochelaga-Maisonneuve. Qui a exactement, tu sais, c'est comme des ateliers collaboratifs, donc c'est le même modèle, tu sais, on devient membre, on peut utiliser les ateliers, c'est autogéré, tout le monde participe bénévolement, fait des tâches de ménage et tout ça. Par contre, tu sais, c'est ça, il y a tout l'aspect de épicerie, microbrasserie, puis que tous ces projets-là s'assoient ensemble pour prendre des grandes décisions. Ça, c'est un aspect qu'à l'Espace Maker, ben, tu sais, les ateliers le font ensemble, mais c'est il y a comme pas 15 projets qui s'autogèrent ensemble, tu sais. Fait que ça, c'est un modèle que nous, on a dû développer en faisant une courte pointe de plein d'autres modèles qu'on a trouvés à travers le monde. Puis avec des méthodes d'autogestion, justement, qu'on est allé grappiller un peu à gauche, un peu à droite pour créer notre propre système démocratique qui est en évolution en ce moment.
Très bien. Ce bâtiment communautaire, il est notamment occupé, on l'a dit, par des ateliers collaboratifs autour de la mécanique auto, du vélo, du bois, de la céramique ou encore de la photo. C'est le sujet du jour, les ateliers. Quel est l'impact sur les personnes qui les utilisent? Qui sont les personnes qui les utilisent d'abord? Et quels sont les bénéfices que vous observez de ces ateliers sur la communauté?
Bien, je dirais que ça s'adresse à tout le monde, en fait, qui a envie de travailler de ses mains puis apprendre à être autonome. Par contre, je pense vraiment que ça touche beaucoup plus les gens qui habitent le sud-ouest, parce que quand même, l'avantage, c'est d'avoir une proximité physique avec le lieu. Puis je pense que les avantages pour la communauté, bien, c'est d'avoir... En fait, c'est... Ce qu'on a souvent comme retour des gens, c'est que, tu sais, il y en a d'autres des ateliers de menuiserie à Montréal, il y en a d'autres des labs photo puis tout ça, mais il y a, tu sais, là, tu sors de ton local, de ton atelier, puis tu vas prendre une bière au bar, tu vas faire ton épicerie, tout ça dans la même communauté.
Oui, c'est ça.
Puis tu développes un sentiment de communauté, de solidarité, puis qu'on est en train de créer quelque chose, tout le monde ensemble, puis tout le monde apporte un petit quelque chose à sa façon. Fait que je pense que ça, c'est le principal avantage. Également, le fait que c'est par rapport au marché en ce moment, c'est quand même très peu cher.
Oui.
Nous, dans nos ateliers, dans le fond, on charge 8 $ de l'heure pour réserver l'atelier, l'utiliser. On a aussi une formule d'abonnement à 75 $ par mois pour utiliser les 7 ateliers. Donc, c'est sûr que jour 1, on paye notre 75 $, on n'a pas accès à tous les ateliers. Il faut suivre des accréditations pour être sûr qu'on utilise bien les machines. Mais c'est ça, donc c'est pas cher, c'est en plein milieu d'une communauté, en pleine ébullition, puis en plein développement, fait qu'il y a de l'action, tu sais, puis ça favorise les rencontres, ça favorise d'autres projets aussi, parce qu'on rencontre des gens qui ont des choses en commun avec nous, puis c'est ça, ça crée souvent d'autres projets que les personnes n'avaient pas nécessairement voulu ou pensé que ça allait se passer au bâtiment 7. Bon,
ben ça donne envie et ça tombe bien, parce que si je vous reçois, c'est aussi pour parler d'un événement à venir. C'est le Parti des ateliers qui aura lieu dans la nuit du 23 au 24 mars avec toute une programmation musicale, restaurative, ludique. Quelle est la volonté derrière l'organisation de cet événement?
Principalement de financement. On ne va pas se le cacher que, étant donné que la majorité des énergies qui sont mises dans les ateliers, c'est bénévole, on essaye de trouver des moyens de soutenir le roulement, le développement des ateliers avec de l'argent extérieur. Fait que c'est ça, dans le fond, l'objectif, c'est surtout de compléter notre financement pour l'année à venir. Mais l'objectif, c'est aussi de ramener du monde le plus possible dans les ateliers pour les découvrir une première fois, parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas eu l'occasion de venir voir de quoi ça a l'air. Il y a eu pas mal de déménagements puis de nouveautés dans les derniers mois aussi. Fait que c'est comme d'investir le lieu d'une autre énergie le temps d'une nuit pour que les gens puissent entrer une première fois en contact puis voir c'est quoi l'énergie qu'il y a dans les lieux.
Oui, c'est un peu des portes ouvertes, même si le bâtiment est toujours ouvert à tout le monde.
Ouais.
Y aura notamment les ateliers qui seront ouverts à tous. Ouais. Qu'est-ce qu'on pourra y voir, y faire?
En fait, il va y avoir des activités, des petites activités comme de fabrication de choses dans l'atelier céramique, dans l'atelier bois. Mais c'est ça, chaque atelier va être ouvert puis va proposer peut-être des petites activités un peu spontanées. Fait que l'objectif, c'est vraiment de venir essayer quelque chose avec ses mains puis s'amuser.
Très bien. Eh bien, j'encourage tous ceux et celles qui nous écoutent à vous joindre. Donc, ça se passe du 23 au 24 mars.
Exact.
Toutes les informations sur Bâtiment 7. Il y a un petit prix à payer à l'entrée et puis tous les bénéfices seront reversés au roulement du B7.
Exact.
J'ai tout dit?
Oui.
C'est tout bon? Merci beaucoup Caroline et puis bon parti.
Merci beaucoup.
On continue sur CIBL avec la chronique culturelle de Louise Anneau, mais avant ça on écoute Jardin de Philpot.
La rue d'où un matin y est descendu d'en haut jusque dans le jardin. Il est temps que je me réveille. Qu'est-ce que
je reçois pour finir notre chroniqueuse Louise Anneau pour un petit tour de l'actualité culturelle à Montréal. Bonjour Louisa.
Bonjour Charline, bonjour à toutes et à tous. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette deuxième chronique culturelle. Alors ici, on parle de théâtre, de danse, de cirque, d'expo et de plein d'autres activités culturelles qui auront lieu dans les prochains jours et les prochaines semaines. Mais avant ça, chaque semaine, on s'intéresse aussi à une salle de spectacle ou à un lieu culturel en particulier. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la TOHU, un lieu emblématique dans le monde monde du cirque à Montréal, mais aussi à l'international.
Et alors, qu'est-ce que c'est la Tohu ?
Alors, la Tohu, c'est le lieu de diffusion, de création et, d'expérimentation des arts du cirque à Montréal. On y retrouve une salle unique en Amérique du Nord qui positionne aujourd'hui Montréal comme capitale internationale des arts du cirque. Et cette année, en juin, la Tohu va d'ailleurs fêter ses 20 ans. Et pour cette occasion, j'ai eu la chance de rencontrer Yannick Derry, directeur des communications et des relations publiques à la Tohu, pour me parler un peu plus de ce lieu et de cet organisme assez incroyable.
Incroyable carrément, qu'est-ce qui rend la Tohu si spéciale ?
Alors je dirais que la Tohu, c'est une initiative assez formidable parce que c'est comme vraiment un espace d'union entre la culture, l'environnement et l'engagement communautaire qui sont d'ailleurs en fait les trois axes principaux dans lesquels s'engage la Tohu. Elle a en effet trois missions regroupées autour du cirque, de la terre et de l'humain et elle arrive vraiment bien à connecter ces trois volets.
Ok, donc cirque, terre, humain, si on commence par le cirque, pourquoi est-ce qu'elle représente un lieu central en Amérique du Nord ?
Alors, la Tohu, c'est un lieu central, je dirais déjà, par son emplacement, qui est au cœur de la Cité des Arts du Cirque, qui est un concept aussi assez unique au monde. En fait, la Cité des Arts du Cirque, elle est située dans le quartier Saint-Michel, et c'est comme une grappe sectorielle, un véritable écosystème, en fait, dédié au cirque contemporain. On y retrouve, par exemple, l'École nationale de cirque, le siège social international du Cirque du Soleil, et donc aussi la Tohu. Et près de 2000 personnes, en fait, transitent quotidiennement dans cet espace, pour étudier, enseigner, chercher, créer, et tout ça dans plusieurs milliers de pieds carrés de studios d'entraînement, de recherche et de création. C'est donc vraiment dans cette effervescence qu'a été bâtie la Tohu en 2004 et que depuis 20 ans maintenant, elle a accueilli plus d'une centaine de spectacles, des artistes de tous les horizons et encore des milliers de spectateurs.
Et qu'est-ce qui rend cette salle de la Tohu si unique, même si on commence un peu à le comprendre ?
C'est une salle, en fait la seule salle en Amérique du Nord qui est circulaire, c'est-à-dire à 360 degrés, donc elle crée un véritable pont entre le passé et l'avenir, car d'un côté, elle adopte la forme des anciens chapiteaux de cirque, et d'un autre, c'est une salle qui a été bâtie avec les principes du développement durable.
On en arrive au deuxième volet, qui est la terre, c'est ça ?
Oui, c'est vrai que la construction de l'édifice de la Tohu est un défi de technique et d'ingénierie. Elle est d'ailleurs certifiée LEED Or Canada, qui est la plus importante certification de performance environnementale dans le milieu de la construction. Elle a utilisé des matériaux recyclés, en fait, justement, tout au long de sa construction. Juste un exemple, quand on rentre dans le hall principal de la Tohu, on peut voir des escaliers qui ont en fait été en partie construits avec les anciens panneaux des autotamponneuses de la ronde à l'époque. Et en plus de ça, elle garantit aussi le respect des plus hauts standards d'organisation d'événements éco-responsables dans ces manifestations. Mais surtout aussi, elle fait office de pavillon d'accueil et d'interprétation du parc Frédéric Bach, qui est un parc qui a une histoire bien particulière, car il y a quelques années, c'était encore une ancienne carrière de calcaire et un site d'enfouissement des déchets. Et c'est à la suite de la mobilisation des habitants et des habitantes du quartier notamment que ce site a été transformé en parc urbain écologique. Donc quand on se promène dans le parc Frédéric Bach, on peut retrouver comme d'étranges sphères qui abritent en fait un dispositif qui recueille le biogaz produit par les déchets enfouis encore sous terre. Donc c'est dans ce contexte que la Tohu, elle remplit une part de sa mission autour de la terre, car elle offre des visites guidées du parc, des ateliers éducatifs au cours de l'environnement pour le jeune public, et elle propose aussi tout un tas d'activités de loisirs et de plein air. Par exemple, en hiver, s'il y a encore de la neige, elle offre gratuitement des skis de fond et des raquettes, et en été, elle prête aussi des vélos et des trottinettes. Et globalement, en fait, la Tohu, elle multiplie les liens avec les citoyens et les citoyennes avec plein d'autres activités gratuites.
Donc il y a vraiment un lien entre les citoyens et les citoyennes qui constitue un des piliers de la Tohu.
Oui, l'humain est un axe principal aussi de la Tohu. Elle est vraiment ancrée au cœur du quartier Saint-Michel, qui est un des quartiers les plus défavorisés, mais aussi un des plus jeunes et multiculturels à Montréal. Elle vient vraiment s'y placer comme un moteur de vitalité culturelle, sociale et économique. Déjà, elle a tissé au fil des années beaucoup de liens en fait avec les organismes communautaires du quartier, avec les écoles primaires et secondaires, et elle propose aussi toute une programmation gratuite pour les résidents et les résidentes qui ont alors accès à plein de choses, à des expositions, à des animations, mais aussi à des spectacles. Par exemple, plus de 460 spectacles et événements ont déjà été offerts gratuitement pour la communauté. Il propose aussi différents ateliers de médiation culturelle, comme des ateliers de découverte de l'univers du cirque, des ateliers de création de contes, et même des rencontres avec des artistes, notamment pour les nouveaux arrivants. Et la Tohu, Elle se démarque aussi par sa politique d'employabilité locale, en mettant en place en fait tout un programme d'insertion professionnelle pour les jeunes de Saint-Michel. Et donc ce sont eux en fait qui nous accueillent à la billetterie, au bistrot, dans la salle, qui accompagnent en fait les spectateurs dans leur expérience à la TEU. C'est vraiment comme une première expérience d'emploi pour les jeunes, qui peut aussi être un tremplin professionnellement et personnellement. Pour tout ça, il y a le département des ressources humaines qui est mobilisé avec les organismes communautaires du quartier. Il y a aussi un agent de liaison de quartier. Et la TEU, elle participe aussi à des tables de concertation, en fait, dans le quartier Saint-Michel. Donc, dans tout ça, ce qui revient vraiment au cœur de la TEU, c'est cette envie de partage, de favoriser les espaces de rencontre, d'échange et de découverte. Et je pense aussi que la TEU, elle a vraiment réussi en fait à s'intégrer dans le paysage du quartier en devenant un point de rassemblement et un lieu surtout accessible pour les habitants et les habitantes.
Et justement, c'est aussi par des grands événements extérieurs que cette TEU, elle réussit à rassembler autant de monde.
Oui, vraiment, elle est à l'initiative de grands événements qui s'en viennent d'ailleurs au début de l'été. On aura l'occasion d'en reparler dans cette chronique, mais on pourra retrouver notamment le festival Les Lumières de Saint-Michel, qui propose des ateliers de confection de lanternes lumineuses, qui commencent d'ailleurs en avril. Et à la suite de ces ateliers, en fait, les gens seront invités à 3 jours de festivités à la fin du mois d'août, durant lesquels un grand défilé à travers le quartier Saint-Michel et le parc Frédéric Barque sera organisé, avec ensuite des festivités à la TEU. Cette année, ce sera la 2e édition de ce festival. Et toujours cette année, il y aura aussi le festival Grain de Ciel qui sera de retour à la TEU. Et sur 3 jours, il invitera les Montréalais et les Montréalaises à découvrir la pratique et la beauté du cerf-volant à travers donc, des démonstrations dans le parc, des spectacles de théâtre de rue et même des expos en fait, juste de magnifiques cerfs-volants. Et le public pourra même rencontrer des cerf-volistes internationaux et confectionner ses propres cerfs-volants. Et bien sûr, on pourra aussi retrouver du 4 au 14 juillet 2024 le festival Montréal complètement cirque. Donc c'est un festival qui est vraiment relié directement à la TEU et qui est devenu un incontournable, un carrefour international des arts du cirque, avec une programmation énorme et des spectacles vraiment d'une très grande qualité. Quand on se balade dans les rues, on peut voir des centaines de spectacles gratuits. Bon, il faut attendre encore un peu les beaux jours pour voir tous ces festivals, mais ça vaut vraiment la peine.
Eh ben, il y a l'air d'avoir une belle programmation en été, on a hâte. En attendant, est-ce qu'il y a des choses à faire pour ce mois de mars, pour ce début de printemps qui arrive ?
Oui, alors déjà, on peut découvrir tous les 2 mois une nouvelle exposition gratuite en rapport avec un des axes de leur mission, donc le cirque, la terre ou l'humain. Jusqu'au 17 mars, et ce, depuis le 7 février, la TEU présente l'exposition Fugitif par l'artiste Webster à l'occasion du mois de l'histoire des Noirs. Et dès le 19 mars, l'exposition Homme fort du fonds Jacob William sera à découvrir sur les athlètes et les artistes de l'arène et du spectaculaire. Et en tout temps, leur exposition permanente est aussi gratuite dans les coursives de la salle de la TEU. Elle s'appelle « L'art du cirque » et l'expo vient nous montrer le spectacle du point de vue des artistes d'un côté et du point de vue du public de l'autre côté. Donc on peut voir du côté des artistes un peu la vie de tournée, le maquillage, le voyage, les accréditations. Et du point de vue du public, on peut voir les billets, la découverte de la salle, l'excitation en amont. Donc on rentre vraiment dans les coulisses du cirque et de ses artisans. Et à travers différents objets de scène, de pièces de costumes ou des affiches, on voit vraiment cet univers du cirque et son évolution. Et pour vivre vraiment l'expérience du spectacle de cirque, on pourra retrouver le spectacle Slam dans la salle de la TEU du 19 mars au 7 avril. Un spectacle par la compagnie Ex Machina et la compagnie Flip Fabric et mis en scène par Robert Lepage. Alors ce spectacle vient mêler le monde de la lutte à celui du cirque et du théâtre. Plus qu'une compétition de poésie, le slam dont il sera question ici se rapprochera plus d'un véritable match de lutte mêlé à un spectacle de cirque et un spectacle de théâtre. Donc dans le ring, mais aussi hors du ring, on pourra découvrir différents personnages plus grands que nature interprétés par de très talentueux acrobates. Donc entre coups de poing, coups de gueule et coups de théâtre, Slam nous en fera voir de toutes les couleurs. Et si on voyage un tout petit peu, par exemple depuis chez nous, les contes de la Faya par l'artiste et conteuse Delphine Arnaud sont à découvrir aussi sur le site de la TEU en balado-diffusion. Donc ce sont des petits contes de 10 minutes environ, des récits poétiques avec des univers magiques qui invitent au rêve et à la réflexion. Et ce sont de très belles histoires à découvrir très vite.
Voilà pour la programmation de la TEU. Merci beaucoup Louisa.
Ben, merci. Je tiens encore une fois à remercier Yannick Derry qui m'a accordé ce temps pour répondre à toutes mes questions par rapport à la TEU.
On passe au reste de Montréal. Quels sont les autres spectacles, les autres sorties culturelles de ce mois-ci? Quel est le programme?
Eh bien, on peut commencer le programme avec le festival Grand Éphémère du 22 au 24 mars au Vieux-Port de Montréal. Alors, c'est un rassemblement de 3 jours qui va mettre en lumière la richesse des festivals artistiques indépendants présents aux 4 coins du Québec. Alors, au cours de l'événement, une 40aine de prestations gratuites d'artistes variés seront présentées dans plus de 16 disciplines comme la musique, la poésie, le théâtre, le cirque ou encore les arts numériques. On pourra même voyager à travers l'ensemble des régions du Québec grâce à un parcours interactif. Donc, au programme, on pourra retrouver des concerts, des spectacles d'impro musical, des spectacles burlesques, des spectacles de cirque, des animations déambulatoires et même la création de BD en direct. Donc, il y en aura vraiment pour tous les goûts. Toute la programmation est gratuite, mais il vaut mieux réserver ses billets en avance gratuitement sur le site.
Connaissant la ville de Montréal, je pense qu'il y a encore beaucoup d'autres choses à aller faire. Est-ce que tu peux nous en citer une ou deux autres?
Oui, alors un autre festival aura aussi lieu ce mois de mars, le Festival international du film sur l'art, le FIFA, qui revient cette année du 14 au 24 mars en salle pour sa 42e édition. Alors c'est dans différentes salles de Montréal qu'on pourra retrouver plus de 200 titres provenant de plus de 40 pays. Donc de l'architecture à la photographie, à la peinture, au théâtre, à la danse, à la musique, au cinéma. C'est depuis 4 décennies maintenant que le FIFA nous propose un événement pour découvrir les derniers films sur l'art et les films d'art, en plus d'une grande œuvre, en plus d'une grande sélection en fait, d'œuvres interactives et de réalité virtuelle. Donc tous les films présentés sont à retrouver sur le site internet du FIFA. Si un film en particulier vous intéresse, vous pourrez vous procurer un billet unitaire à 14$. Mais si vous avez du mal à choisir, un carnet de 6 billets pour 60$ existe également, tout comme des tarifs passeport, si vraiment vous avez envie de découvrir un maximum de films du festival. Et du cinéma, on pourra aussi en retrouver dans le cadre de la 5e édition du FICA, qui est le festival immersif de culture et d'art scandinave et nordique jusqu'au 15 mars.
Culture avec un K, je précise.
Oui, c'est ça. ce festival, il a pour mission de promouvoir l'art de vivre scandinave et nordique à Montréal et au Québec. Donc le but, c'est vraiment de créer des ponts entre le Québec et les pays scandinaves. Donc il y a plein de rencontres culturelles et artistiques qui sont proposées. Le nom du festival, FICA, est d'ailleurs inspiré du mot suédois FICA, qui désigne la pause café, donc le moment de collation et de rencontre. Et on peut parler encore d'un dernier festival, le festival Art Souterrain Environnement Entendu, qui se tiendra du 16 mars au 7 avril. Donc ce festival d'art contemporain, il va venir s'interroger sur le positionnement des artistes en fait, au sein de leur environnement. Et il mettra aussi en lumière plus d'une 40aine de talents locaux et internationaux qui inscrivent leur démarche dans une perspective sociale et environnementale.
On a parlé de cirque, de cinéma. Est-ce qu'il y aurait de la musique au programme en ce mois de mars?
Oui, alors la 28e édition du concours musical des Francouvertes a bien commencé ce 11 mars au Lion d'Or. Il s'agit ici de l'une des vitrines majeures de la scène musicale francophone québécoise émergente. Alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas, il s'agit d'un concours à travers 11 soirées de découvertes musicales au cours desquelles 21 artistes et formations tenteront de séduire le public et les jurés de l'industrie qui se partagent en fait la note à 50%. Et cette année, afin d'offrir un maximum de visibilité aux participants et aux participantes et une meilleure découvrabilité au grand public, il sera possible de visionner gratuitement en direct toutes les soirées de l'événement. Donc celles et ceux qui souhaitent vivre l'expérience totale et donc voter pourront acheter leurs billets. Et les préliminaires continueront de se tenir ce soir, mais aussi le 13, le 18, le 19, le 20, le 26 et le 27 mars au cabaret Lion d'Or pour 18$. Et ensuite, ce sera le Club Soda qui prendra le relais pour les demi-finales en avril et la finale en mai.
Très bien. Et pour finir, on ne peut pas se quitter sans parler de la Saint-Patrick, qui est très importante aussi. Qu'est-ce que tu peux nous en dire à ce propos?
Oui, bah pour terminer cette chronique, je rappelle que Montréal accueillera sa 199e parade de la Saint-Patrick. Alors cette parade, qui est d'ailleurs la plus ancienne du genre au Canada depuis 1824, aura lieu de midi à 15h ce dimanche au centre-ville.
Merci beaucoup, Louisa. On te souhaite un joyeux mois de mars et aussi à toutes celles et ceux qui nous écoutent. Bons événements et puis on se retrouve dans un mois quand tu auras trouvé des nouvelles choses à nous raconter.
Merci oui, beaucoup, Louisa. Plaisir. Merci à toi.
On continue sur CIBL avec la clôture de l'émission et le programme de demain.
T'as toujours la même dessus ton set à graines, ta bouteille. Fais pareil, puis on monnaie, puis away. Fais ton affaire, à chaque seconde tu manques d'air. Tu te demandes de quoi j'ai de l'air. J'aurais beau t'en faire à quoi, mais ton miroir à quoi qu'il te sert. Tout ton l'air, c'est simple, tout le monde court en perdre haleine. Sauf qu'il peut être de simus, c'est pas toi, ça va t'être eux. Blanc ou noir, on veut savoir être Donald Duck, Colibu. Malade, Berrette, besoin d'un remède de 5 à 7, call de Dieu. Martin Jean aime rendre si bon, le peut pas faire que d'aller mieux. Une question de même, une place pour moi, mais je voudrais pas faire mon tête. Soyez à l'aise, mesdames, messieurs, puis on va se faire un beau col. Chose qui me dit que qui midi pis que j'ai affaire à faire mon lit, me lever le cul, le doigt qui pue, arrêter de scorer dans mon propre but. M'en défaire, pis penser plus, pis toutes les livres, je les ai toutes lues. Parcourir toutes les menus, baisser les bras, crier ou rechanter tout propre. Pis tu peux me croire que je m'ennuie de faire l'amour au soleil. Besoin d'air, ça fait sens, du ouais, 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 autant que je dis non. C'est pas clair, mon affaire, veux-tu que j'essaye une autre brassière? Peut être ça si tu préfères, dans le retard ou spectre ta mère. Comment ça y croit, viens-tu ici, d'où je m'en viens de voir. Il y a encore des mains partout, mais tu causes que je qu'on reste debout. Une plus de 5, ces hosties-là, ils parlent bien fort, ils parlent tout nous. Dis-moi donc à quoi ça rime, à chaque coin de rue, tu regardes des signes. Qu'est-ce que tu fais là, mon beau garçon, l'excitation me donne bonne mine. J'avais oublié d'en prendre un peu pour moi. J'avais oublié d'en prendre un peu pour moi. C'est nos silicophobes, c'est à toi. Détruit ou bien qu'on forge mon meilleur, mais sans sa peur, bien on avance la peur au cœur. Pas de marco tout meilleur que c'est qui colle, ce qui pète ma bulle. Ça mène être chaud comme un poté, ça fait que ma régularité, puis mes totons. À l'IPI. C'est assez. Quand on scrute ses textes, on peut comprendre qu'un axe avec que ton eau sale pis ton pain sec. C'est comme moi ou c'est les mêmes, mais c'est ok pis à l'alerte. Il faut connaître un meilleur frère. Dis-moi, tu te l'aides d'un assiette, la crêpe, la baie dans mon assiette. Drôle de tempête quand t'ouvres la fenêtre, le calme, le repos de la bête. Dis qu'à serrer une membre de l'aide, vas-tu te démerdes dans le fond de ton bled. T'aimerais ça que le monde remarque, il manque une rame dans le fond de ta bague. Vas-tu bien dire que ça reflète, y'a comme une petite odeur de perte. Sors souvent dans les manchettes, le meurtre du noir se répète. Fait que tout blanc, c'est la gâchette. Chris, le feu brûle des pneus, la vie est laide, à force le plus cuillère en or au mauvais sort pour l'œil de beau choix du ghetto. Méchant loup qui mange la nuit dans tout ce qu'on fait, du beau du lait. C'est toi que la grosse fait pas exprès. Gars là-bas, il court après le plus sinistre des animaux. Baiser aux lèvres, on se fait la peau, il vire de bord, vite c'est dans le dos. Crime d'honneur, et tu sa sœur, j'arrête ici pour leur passe à mes cœurs. C'est nos silicates, c'est nos silicates. Un petit vin me délier la langue, les bons tombent à chaque seconde et tout le monde a bon à la ronde. Et on tape pas tout seul à l'onde, derrière l'écran, ça vient prenant. Tous les idiots sont réunis, caressent le choc, laissent la souris. Faut nourrir les pauvres d'esprit, le nouveau Dieu, de l'appétit pour tout ce qui sale, qui brise des vies, toutes les égaux qui nagent dans l'eau. Bord de sang, sont crucifiés, puis de fin de l'ordre dans toutes nos vies. Fait qu'on pose, puis on publie du beau, du vrai, du faux, du lait. Nos jalousies nous pompent la nuit, la belle lubie qui lubrifie. Au doux son du cliquetis, le samedi soir, t'as pas de vie, Dieu de la feuille, ça se voit à l'œil, on est à veille d'atteindre le sol. Comme le petit proverbe chinois qu'on connaît tout sur le bout du doigt, j'ai passé 7 ans en thérapie, puis au crise de temps que j'ai relaté ici, ça fait que c'est nos silicophobies, ça tient ta voix, j'ai fait décrire. Les animaux qui vivent la nuit pour te mettre dans le jour dans l'île. C'est nos silicophobies, ça tient ta voix.
C'était Le Vide de Bernard Adamus et pour nous, l'émission d'aujourd'hui touche déjà à sa fin. Je remercie nos invités et nos chroniqueurs, chroniqueuses du jour d'être passés à l'émission ainsi que Maurice Bolduc pour la mise en onde et les choix musicaux. Demain, on reçoit 3 invités qui nous parleront respectivement de ressources humaines, de maternité et d'itinérance. Alors restez branchés sur CIBL pour suivre ce beau programme et n'oubliez pas que l'émission est également disponible en balado sur les plateformes et sur notre site web. C'était Charline Caro sur CIBL. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à demain pour une prochaine émission. We'll be right back.
espèce de longueur d'onde.
CIBL, au cœur de la vie citoyenne.
Depuis plus de 30 ans, le journal mensuel Écho Montréal est le fier porte-parole de l'actualité politique, économique, sociale et culturelle au cœur de Montréal. Distribué gratuitement et rejoignant 200 000 lecteurs, Écho Montréal est aussi un véhicule publicitaire polyvalent en répondant efficacement aux besoins de différents annonceurs, comme dans l'immobilier ou tout simplement pour y afficher avis public ou services professionnels.
À lire ce mois-ci dans Écho Montréal. Montréal à la croisée des chemins. Pain, vin et fantaisie. Le triomphalisme trumpiste. Immobilier, bilan 2023, perspective 2024.
Pour en savoir plus, nous vous invitons à visiter notre plateforme numérique à ecomontréal.com ou à composer le 514-844-2133. 514-844-2133.
Bonjour à vous tous, ici Justin Leblanc. Je vous invite chaleureusement à écouter Fleur Bleue, votre rendez-vous musical québécois des années 70 à aujourd'hui, tous les dimanches soirs, 20h, à CIBL.
Salut, c'est Laurie Vachon. Dans Attache Tatoune, tu vas découvrir les artistes d'aujourd'hui et de demain. Une heure d'entrevue avec les artistes émergents pour parler de création, de leurs influences et bien sûr de leur univers. Viens écouter Attache Tatoune. Une heure de musique, une heure de découverte, c'est dans Attache Tatoune, jeudi de 13h à 14h sur CIBL 101.5.
Je m'appelle Charlie Mulot et je vous donne rendez-vous tous les vendredis à 20h pour La Cabane à Contes, l'émission où on vous raconte des histoires.
CIBL. Bonjour et bienvenue à L'Effet durable, l'émission de la Maison du développement durable sur les ondes de CIBL.